Antoine Robitaille.
Le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
C'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, important menu aujourd'hui, Patrick. On commence par le premier sujet de peut-être 5, si on se rend à 5. Québec solidaire qui interdit aux hommes hétérosexuels de se porter candidat dans une partielle.
Oui, une règle temporaire, comme c'est un sujet qui nous assure que le sujet restera récurrent. Le parti aura à réévaluer la règle. Écoute, Antoine, sur le plan juridique, il y a une première donnée qui est importante. Oui, on voit tous là une forme d'exclusion qui semble, aux yeux de plusieurs, discriminatoire parce que sur la base du sexe de la personne, on peut ou on ne peut pas être candidat.
Oui.
Mais c'est important d'être conscient que avant de crier à la discrimination, il faut être sûr que la charte s'applique.
Oui, mais c'est ça. La charte s'applique entre les rapports, dans les rapports entre l'État et le citoyen. En tout cas, la charte fédérale.
Et on l'oublie souvent parce que c'est nos élus, c'est les partis politiques, mais...
Mais la charte du Québec s'applique... La charte du Québec s'applique quand même, Patrick, puis tu me corrigeras.
Mais je suis pas sûr.
Mais ça s'applique au contrat, donc...
La charte canadienne s'applique qu'à l'État, puis... Québec solidaire, c'est un... Peut-être pas ses députés, mais c'est une association privée. Là. Ils ont les règles qu'ils veulent.
Mais c'est pour ça que je parle de la Charte québécoise qui, elle, me semble, s'applique au droit privé, si je puis parler comme ça.
Tu as raison de souligner que la Charte québécoise, elle a un plus que la Charte canadienne n'a pas, la possibilité de l'appliquer dans les rapports entre personnes privées. Mais c'est pas tous les rapports ou toutes les situations entre personnes privées. Souvent, ça va être les services ordinairement offerts au public. Donc, si je suis un restaurateur, ben, j'offre au public des tables et donc, il faut que je les offre sans discrimination. Mais le client, lui, il a le droit de discriminer et préférer manger du chinois que du grec. Là. Lui, il n'est pas lié par la charte québécoise. Donc, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas tous les rapports privés qui sont visés par la charte.
Okay.
Il y a les contrats, tu l'as souligné. Mais je ne suis pas sûr, moi, que il est où le contrat? Là? C'est le contrat en signant la carte de membre? Ça vient avec les statuts? En tout cas, il y a vraiment le défi que de réussir à mobiliser la charte. Cela dit, ça se peut que ça arrive, parce que là, on voit l'ex-candidat dans Jean Talon claque la porte, M. Bolduc. Ça se dit même écœuré là, de tout ce débat. Donc, ça se peut un jour qu'il y ait un candidat. Le regretté Frédéric Bastien aurait peut-être été du genre à devenir membre de Québec solidaire pour en contester ce genre de règles-là. mais c'est pas évident là, de trouver la personne qui... Parce que c'est pas tout le monde qui peut contester, c'est seulement quelqu'un qui est directement affecté par la règle. Donc, il faudra quelqu'un qui veut se porter candidat à QS dans le but de contester la règle et qui réussit à démontrer que la Charte québécoise s'applique.
Il y a comme une transparence chez Québec solidaire, on le dit, alors que dans d'autres partis, c'est le chef qui décide tout seul, puis lui peut discriminer sans le dire tout haut, mais préférer des candidatures féminines dans certains comtés. C'est l'argument de Vincent Marissal que je trouve quand même assez, réaliste comme argument.
Oui. À la Coalition Avenir Québec, le chef a beaucoup d'influence sur le choix des candidats au détriment des militants. Et c'est vrai que pour cette raison, et aussi parce que c'était un nouveau parti, fait qu'il n'y avait pas nécessairement des anciens candidats à la tonne qui occupaient un peu déjà là, le terrain des investitures, ça a permis à ce parti de quand même faire des grands pas en avant vers des candidatures féminines. Et c'est vrai que du moment, ça c'est leur choix à eux, mais du moment où Québec solidaire décide que c'est plus important d'avoir un caucus représentatif que de laisser le choix aux membres ou de n'exclure personne, ben c'est leur choix à eux, c'est leur parti à eux.
Ben c'est ça, je vois pas pourquoi.
Ça dit quelque chose, Ça dit quelque chose de la hiérarchie ou leur conception de la démocratie. Mm. On en parle souvent à ce micro-là. La culture des droits, c'est important. Donc, on peut faire un débat entre une conception de l'égalité plus universaliste qui veut que, justement, les chartes, c'est pour tout le monde, même pour les hommes hétéros. Et cette position-là, on peut l'opposer à une conception plus... qu'on retrouve davantage au Canada, où tout est axé sur des rapports entre dominants et dominés, et que du moment où la discrimination, l'exclusion vise le dominant, ben c'est pas vraiment de la discrimination. Il y a des philosophies, il y a des valeurs qui sont derrière qui se dessinent derrière ce débat-là. Et ça, c'est important, mais je veux juste bien distinguer à quel point le débat sur la culture des droits, l'aspect politique, lui, c'est un maudit beau débat. On n'a peut-être pas le temps de le mener aujourd'hui, mais il faut qu'il soit mené dans la société. Il faut que Québec solidaire assume sa vision, puis la confronte, la présente aux électeurs, puis que les électeurs qui aiment ça appuient, puis ceux qui n'aiment pas ça rejettent cette vision-là des droits. Mais en même temps, sur le plan, là, est-ce que j'ai un recours à déposer devant un tribunal? Je ne suis pas si sûr que ça. Loin d'être évident. Il y a une mécanique un peu complexe.
Absolument.
C'est impossible, mais le chemin est un peu miné.
Deuxième sujet, déclaration de la commissaire à l'éthique ici à l'Assemblée nationale, Ariane Mignolet, qui a déclaré que en se votant une augmentation de salaire, les élus sont placés dans une situation d'apparence de conflit d'intérêts.
Oui, j'ai trouvé la formule un peu forte, hein, perception de conflit d'intérêt, mais en même temps, on peut pas reprocher à la commissaire de pas de faire fi du malaise qui existe parmi la population. Il faut parfois mettre des mots. Ce que j'aime moins que conflit d'intérêt, là, c'est que ça a quasiment une dimension illégale, alors que ça a toujours été comme ça. Ça fait partie des privilèges parlementaires, le fait de décider que les députés déterminent leur rémunération. Chose certaine, la commissaire a proposé des pistes pour de meilleures pratiques et moi là-dessus, je trouve que il y a une piste vraiment plus intéressante puis une qui l'est beaucoup moins. Donc, elle a proposé une solution que j'appellerais temporelle, que quand les députés se votent une augmentation, c'est pour le prochain Parlement, c'est pour la prochaine législature, donc dans 4 ans, après la prochaine élection. Ça, je trouve ça intéressant comme
idée.
Que
Jean Chrétien avait fait au fédéral.
Oui, ça dépersonnalise un peu, ça crée de la distance. Ça, j'aime bien. L'autre solution dont elle faisait la promotion, c'est de tout confier ça aveuglément à un comité indépendant qui serait décisionnel et exécutoire. Ben, on peut bien le faire, mais moi, je garantis que c'est l'autoroute vers un salaire de premier ministre équivalent à celui du Gros-Québec, des salaires de députés équivalents à ceux des sous-ministres. Peut-être qu'ils le méritent, là, mais chose certaine, c'est une manière de faire qui va conduire à des augmentations beaucoup plus importante, puis à une forme de dépossession là, du débat entourant ça.
Sur la notion de conflit d'intérêts aussi, Patrick, je me souviens très bien que dans une décision du commissaire à l'éthique, il y avait un passage sur, mettons, les avocats qui participent en commission parlementaire à un projet de loi qui porte sur les avocats.
Et, ben oui.
Et le commissaire avait expliqué pourquoi il ne se trouvait pas en conflit d'intérêts, parce que c'était une affaire collective. Or là, c'est exactement ça, je veux dire, c'est une décision collective et non personnelle. Il me semble que le conflit d'intérêts auquel la commissaire ou le commissaire à l'éthique doit s'attaquer, c'est dans un cas précis pour un élu précis. Alors, c'est pour ça qu'en fin de semaine, j'ai écrit dans le journal que je trouvais que c'était pas une décision. En tout cas, c'est une décision qui se discute, une déclaration qui se discute.
Ouais. Et je crois qu'à un moment donné, elle est un peu coincée, la commissaire, dans une dynamique où son mandat, c'est des plaintes portant sur des situations individuelles. Mais en même temps, l'idée qu'une fois de temps en temps, on fait un bilan du code d'éthique puis du fonctionnement général, ben, l'amène nécessairement à sortir de son rôle initial. Jusqu'à quel point? Moi, conflit d'intérêts, je suis pas certain que c'était les mots les plus justes. En tout cas, les mots sont forts. Et effectivement, ultimement, les députés votent des lois qui s'appliquent à tout le monde. Ils sont donc en conflit d'intérêts permanent. Je suis un peu soucieux de ne pas surdévaloriser le rôle de nos élus.
Loi sur les langues officielles, on soulignait ce matin dans le journal, c'est sous la plume de Raphaël Pirot, que depuis 1995, le Canada a dépensé 2 milliards pour soutenir l'anglais au Québec.
2 milliards. Je sais bien que c'est depuis 95, mais de toute façon, c'est pas des chiffres officiels. Là. C'est une tentative par le porte-parole du Bloc québécois en matière de langues officielles. Je pense que c'est Mario Beaulieu.
Oui, c'est Mario Beaulieu.
D'additionner les chiffres. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle, Antoine, c'est que au fond, il n'y a rien de nouveau là-dedans. On sait depuis toujours que le paradigme, la perspective ou l'orientation de la loi sur les langues officielles à Ottawa, c'est d'aider les minorités de langues officielles. Donc, ça veut dire aider les francophones en dehors du Québec et aider l'anglais au Québec. Et donc, cette loi, jusqu'à sa dernière révision, son but, c'était d'angliciser un peu plus le Québec et de mettre un peu plus de français dans le reste du Canada. Une logique fort critiquable. Et là, il faut quand même rendre au gouvernement Trudeau le mérite. Ils ont réussi à un peu changer cette orientation dans la nouvelle loi sur les langues officielles en disant, en reconnaissant que le français est aussi menacé au Québec. Il faut aussi de la protection au Québec. Mais là, tous les sceptiques se disaient, ouais, mais attendons de voir la suite. Attendons de voir les budgets, la mise en œuvre. Et je pense qu'avec le reportage de Raphaël Perrault d'aujourd'hui, on voit que les sceptiques avaient raison.
Oui.
On annonce, on confirme que le fédéral compte poursuivre sur sa lancée avec plus de 800 millions au cours des 5 prochaines années. Pourquoi? Pour soutenir le rôle traditionnel, soutenir plus d'anglais au Québec. Et là, je vois pas en tout cas l'équivalent, la contrepartie pour aider le français comme langue menacée, même au Québec. Et il y a des reportages vaut le coup. Là, on nous parle de la part de Lyon, de la part du Lyon qui est réservée notamment à des universités comme McGill et Concordia qui touchent des fonds fédéraux et qui les placent justement dans une situation avantageuse par rapport aux autres universités québécoises dans un contexte où, en tout cas, cette question-là a fait l'actualité cet automne. Donc, c'est un reportage à lire. C'est un dossier à surveiller parce qu'on le sait pour le passé. Mais c'est à partir de la nouvelle loi, il va falloir surveiller si... Le principe qui veut qu'on reconnaît qu'au Québec, il y a une langue française menacée, si ça s'accompagne de certaines conséquences ou si on reste à Ottawa dans nos vieilles habitudes. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on reste dans ces habitudes.
Un petit sujet, en fait un gros sujet pour la fin, mais tu n'as pas beaucoup de temps malheureusement, Patrick. Une politique étudiante pro-palestinienne approuvée par référendum des étudiants de l'Université McGill, on en parlait de McGill, a été suspendue par la Cour supérieure.
Oui, ils ont fait un référendum à McGill. 78,7% de ceux qui ont voté veulent une politique, grosso modo, de boycott de toute entreprise, institution ou individu qui serait complice là, de la situation de la guerre à Gaza. Donc, c'est une prise de position très pro-palestinienne visant à boycotter, au fond, les entreprises qui soutiennent Israël. Et il y a une étudiante juive anonyme de McGill qui s'est adressée au tribunal pour contester cette politique. Là, on n'a pas le temps, mais on est dans tout ce que la charte peut amener comme motif là, victimisant d'un bord puis de l'autre. L'avocat Rémi Bourget, qui est aussi avocat de la FAE là, dans le dossier de la loi 21,
ouais,
avec Frédéric Bérard, représente l'association étudiante. Ils ont consenti à suspendre la politique provisoirement, le temps que le tribunal tranche. Mais on conteste la position, les arguments de l'étudiante juive anonyme. Puis on veut aussi contester sa demande d'anonymat, ce qui n'est pas inintéressant là, du point de vue du droit des médias puis de l'accès à l'information.
Mais surtout dans le climat de violence qu'on a à Montréal à l'endroit des Juifs.
Oui, ça va être un dossier à suivre, mais c'est plus qu'un fait divers. Là. Ça touche au vivre ensemble, ça touche à la manière dont les conflits ailleurs ont des conséquences ici. Et c'est un maudit bel exemple de judiciarisation des conflits. Là. Normalement, dans une université, je ne sais pas, il y a 30 ans, le recteur ou le vice-recteur aurait fait venir tout ce beau monde-là. On aurait eu une belle discussion. Ben là, non, on est devant les tribunaux pour plusieurs mois, plusieurs années, au lieu de se parler et de trouver une solution. C'est un peu malheureux. Espérons que les étudiants de l'Université McGill sauront peut-être revenir à la raison.
Puis pendant ce temps-là, on n'a pas accès aux tribunaux. Alors, vu qu'on judiciarise, on surcharge les pauvres tribunaux de questions qui ne devraient peut-être pas se retrouver là. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
Merci, Antoine.
On devrait mettre ça dans une charte, la déjudiciarisation. Hein? Ça serait comme le serpent qui se mord la queue. À bientôt.
Il y a de la réforme de procédure qui vise un peu à
c'est
ça.
C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Dans le code de procédure civile, hein? C'est vrai.
C'est comme les listes d'attente dans le domaine de la santé. Tout le monde veut les alléger, mais en même temps, il y a de plus en plus d'attentes.
À la semaine prochaine, cher prof Taillon.
Merci Antoine, à bientôt.
Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.